CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Qui le tour du rock de l'info des cadeaux, on est ensemble jusqu'à 19h. La première demi-heure de cette émission est tarn-et-garonnaise comme d'habitude. Et c'est le retour de l'émission politique, le rendez-vous politique de Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Alors après la longue série des émissions consacrées aux municipales, eh bien on reprend notre cycle de rendez-vous politique. Et le premier invité aujourd'hui, c'est Pierre-Antoine Lévy. Pierre-Antoine Lévy, bonjour.
Bonjour.
Kader.
Bonjour Pierre-Antoine Lévy, merci d'avoir accepté notre invitation, sitôt installé à la mairie de Montauban. Je voudrais avec vous en premier lieu, si vous le permettez, évoquer avec vous la disparition, vous l'avez entendu sur notre flash, la disparition aujourd'hui de Dominique Baudis. C'est Dominique Baudis qui a longtemps été maire de Toulouse et qui avait été élu en 1983, qui succédait à son père Pierre Baudis. Il avait été ensuite constamment réélu jusqu'en 2001, député européen en 84. Il entre 2 ans plus tard au conseil régional de Midi-Pyrénées qu'il présidera, ainsi qu'à l'Assemblée nationale avec 3 mandats successifs en 88, 93 et 97 sous l'étiquette UDF. En 2001, il est nommé par Jacques Chirac à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lui qui avait débuté sa carrière en tant que journaliste à l'ORTF, puis à TF1, toujours en tant que correspondant au Moyen-Orient. Il terminera sa carrière de journaliste à France 3 Midi-Pyrénées. Il sera gravement mis en cause en 2003, et on s'en souvient, par des prostituées de Toulouse dans ce qui est communément appelé l'affaire Allègre, avant d'être totalement innocenté par la justice en 2005. Après avoir été président de l'Institut du monde arabe en 2007, Dominique Baudis avait ensuite été nommé défenseur des droits en 2011 pour un mandat de 6 ans. C'est lui qui avait inauguré cette fonction englobant celle de médiateur de la République, de défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, ainsi que la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS. Dominique Baudis allait avoir 67 ans lundi prochain. Pierre-Antoine Lévy, votre réaction à cette disparition?
Alors, c'est une bien triste nouvelle que nous avons appris aujourd'hui. Effectivement, la région Midi-Pyrénées et la France entière perd un homme politique de premier plan. À titre personnel, je connaissais bien Dominique Baudis, donc c'est une grande tristesse qui m'anime aujourd'hui. Vous venez de le signaler, Dominique Baudis a été un grand maire de Toulouse, élu durant 3 mandats, de 1983 à 2001, a eu des fonctions nationales très importantes, était actuellement défenseur des droits nommé par Nicolas Sarkozy en 2001 et député européen. Et je me rappelle que en 2009, quand il avait fait sa campagne de député européen, il était venu à Montauban pour être soutenu, pour que nous l'amenions sur les marchés. Et je sais qu'il y avait un lien assez fort entre Brigitte Barrège et lui. Et ils se soutenaient mutuellement, puisque en 2010, Dominique Baudis était venu lors de la campagne des régionales soutenir Brigitte Barrège. Donc c'est vraiment une grande tristesse aujourd'hui. Vous l'avez rappelé également, on voit un homme qui a été marqué par la calomnie, puisqu'en 2005, je me rappelle de cette soirée du dimanche soir sur TF1, où les très marqués Dominique Baudis était venu s'expliquer sur l'affaire Allègre. Il a été blanchi quelques années après, mais je crois que ça l'a marqué à jamais, et peut-être que ça l'a décidé d'arrêter de se présenter sur la mairie de Toulouse.
Il avait écrit un livre, justement, qui
voilà.
Expliquait, décortiquait toute l'affaire.
Tout à fait. Donc c'est vraiment une grande, grande tristesse, et j'espère que l'hommage qui lui sera fait sera à la mesure de l'homme qu'il était.
Vous irez aux obsèques?
J'irai aux obsèques, bien sûr, tout à fait.
Un point maintenant sur la politique nationale, avant d'entamer la seconde partie, le local. Quel regard portez-vous, Pierre-Antoine Lévy, sur l'annonce de Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, qui souhaite supprimer la moitié des régions d'ici 2017? Vous avez pris cette annonce comme une... Vous qui êtes, je crois, un fervent défenseur de la suppression du millefeuille territorial.
Oui, effectivement. Alors, on va dire qu'avec ce gouvernement Valls, qui succède au gouvernement Hérault, on prend les mêmes et on recommence. Alors, cette annonce qui a été faite il y a quelques jours sur la suppression des départements.
Des départements, on va y revenir. En
2021.
Oui. Prenons le temps. La région.
Et sur les régions.
La suppression de la moitié des régions.
Voilà, moitié des régions.
C'est brutal, quand même.
D'ici 2018, puisque il était prévu à l'origine par Nicolas Sarkozy. Je rappelle quand même, dans les années 2010, que Nicolas Sarkozy avait déjà émis, lors de la réforme des collectivités territoriales, lui-même de supprimer les départements, de les regrouper entre un super conseiller, le conseiller territorial, qui aurait pu siéger à la région et au département. Et il avait, dans l'idée également, la réforme avait été abrogée une fois que François Hollande avait été élu président de la République en 2012. Mais il avait eu l'idée également de renforcer le poids des régions, car on le sait aujourd'hui, les régions françaises sont trop petites par rapport aux mastodontes européens. Et cette idée qui avait été la sienne, qui avait été abrogée, aujourd'hui est reprise.
Alors, à l'image
des régions espagnoles, qui sont des mastodontes avec une véritable autonomie. Donc ça va dans le bon sens. Maintenant, est-ce que ce sont des déclarations d'intention? J'attends de voir. On annonce des choses à 2018, à 2021.
Suppression
des départements à 2021. Je crois que les amis politiques de Manuel Valls n'ont pas forcément apprécié cette annonce.
Ils n'ont pas apprécié, Monsieur Lévy, mais Manuel Valls a déclaré que si les départements ne travaillaient pas dans ce sens, c'est lui qui trancherait.
Alors, ça va être fait sur la base du volontariat.
De volontariat, mais
si ça ne marche pas, ça sera la loi qui passera. Qui réformera donc effectivement qui validera la suppression de ces départements et la réforme des régions, en tout cas leur division par deux. Moi j'y vois un grand intérêt, encore une fois. L'idée c'est effectivement de donner plus de lisibilité et plus de poids aux communes et aux intercommunalités qui aujourd'hui, à mon avis, doivent être renforcées. Ça donnera aussi une lisibilité au grand public qui ne sait pas forcément quel est le rôle des régions, quel est le rôle des départements.
Et qui fait quoi? Voilà. Supprimer les départements, rabaisser le nombre de régions à diviser par deux, est-ce que ça renforcera l'économie française d'après vous? Est-ce que ça limitera la hausse des déficits?
Alors ça va déjà effectivement permettre d'avoir des réductions de coûts sur le plan, on va dire, des institutions. Ensuite, ça pourra donner un poids plus important à une région. Si je prends l'exemple de la région Midi-Pyrénées et de la région Aquitaine, on peut avoir un poids économique très fort du rassemblement de ces deux régions. Et bien sûr que ça va réduire des coûts. Ça va d'abord créer peut-être un poids supplémentaire pour ces régions. Ça va avoir sur le plan national, sur le plan international, plan européen. C'est quand même plus favorable d'avoir la réunion de la région Midi-Pyrénées et de la région Aquitaine que si les deux régions parlent de deux voies différentes. Je crois savoir également que certaines régions avaient déjà entamé ces discussions, notamment la Bourgogne et la Franche-Comté. Je crois que les présidents de ces deux régions ont déjà repris leurs discussions. Donc moi, j'y vois vraiment, une décision assez sage. Encore une fois, faut-il qu'elle aille au bout. Et je trouve dommage finalement qu'on ait supprimé cette réforme pour la reprendre 2 ans plus tard.
Le fond du problème, disent certains, c'est l'endettement des 36 000 communes de France. Que là se situe le problème du surendettement.
Alors, c'est vrai que la dette globale du pays est supportée par l'État en grande partie, par la sécurité sociale et par les communes et collectivités. Bien sûr qu'en faisant des économies d'échelle, on va pouvoir réduire peut-être l'endettement. Ça va pas se faire tout de suite. Attention, ça va pas se faire tout de suite. Il faut arriver peut-être à être plus économe. C'est ce que nous faisons, nous, sur la collectivité, la commune de Montauban et sur l'intercommunalité. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu des abus, il y a eu des gaspillages qui ont été faits. Mais le fait de multiplier les strates multiplie les coûts. Donc le fait de les réduire diminuera mathématiquement les coûts.
Oui.
Juste avant la pause publicitaire et qu'on passe au local, j'ai cette petite info. François Hollande interdit dorénavant le téléphone portable au Conseil des ministres. Alors comme je vous ai vu arriver, Pierre-Antoine Lévy, avec vos deux portables que je vous ai demandé de couper, je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Je suis un addict du téléphone portable, donc effectivement c'est une sage décision. Je ne sais pas si nous allons la mettre en place sur les conseils municipaux et communautaires.
On pourrait imaginer ça, oui, au conseil municipal de Montauban.
Pourquoi pas? Je ne sais pas. Madame le maire prendra la décision. Mais
il y en a qui pianotent beaucoup, vous-même vous pianotez pendant les conseils municipaux.
Ça m'arrive, je ne veux pas dire que ça ne m'arrive pas. Vous avez certainement dû me voir pianoter pendant les conseils, mais ça n'empêche pas de pianoter durant des moments peut-être un peu plus calmes. Généralement, on essaye d'écouter les moments les plus importants, mais c'est pas idiot d'avoir fait ça en conseil des ministres. C'est peut-être aussi le fait d'empêcher que l'information circule avant même que les conseils se terminent, puisqu'il était tradition, je crois, dans les conseils des ministres, de tweeter très vite pour annoncer quelque chose alors que le conseil était en cours et que l'information avait déjà circulé. Alors c'est pas encore notre cas sur Montauban, on tweet pas pendant le conseil. Donc
ça va venir peut-être.
Qui sait, peut-être.
Bon. Une dernière sur les annonces de Manuel Valls, c'est une qui va nous concerner à nous aussi au GMCA, au Grand Montauban. Le Premier ministre a annoncé également qu'au 1er janvier 2018, la carte intercommunale devrait être fondée sur les bassins de vie.
Mais ça me paraît très intelligent, bien évidemment. Aujourd'hui, on voit une intercommunalité, un schéma départemental qui est totalement incohérent.
Chez nous,
il n'est pas illogique d'avoir une intercommunalité plus large, plus grande
plus large.
Que celle qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, l'intercommunalité du Grand Montauban, c'est 8 communes. c'est 75 000 habitants. On va dire que Montauban représente 80%, 82% de la population. Il n'est pas idiot, il n'est pas illogique d'imaginer d'avoir à horizon 2018 une continuité territoriale, puisque pour qu'il y ait élargissement d'un périmètre d'agglo, il faut qu'il y ait continuité territoriale. Mais d'autres communes pourraient rentrer dans cette intercommunalité. Il n'y a pas de très grandes villes sur le département du Tarn-et-Garonne, puisque la ville de Montauban, à elle seule, pèse plus de 20%, 25% de la population du département. Mais on pourrait imaginer avoir une intercommunalité d'une centaine de milliers d'habitants par le regroupement d'autres communes. Bien évidemment, toujours basée sur le volontariat. Brigitte Barège, je crois, n'a jamais voulu faire entrer une commune contre son gré. Ça a toujours été sur la base du volontariat. Ceux qui ont voulu rentrer, on en fait la demande. Bon. Et l'agglo a accepté de les faire rentrer.
Plutôt d'accord, donc, Pierre-Antoine Lévy, sur les annonces de réforme territoriale annoncées par...
Ben, je vous dis, encore une fois, c'est une reprise d'engagement du président Sarkozy, qui a été abrogé et qui a été rétabli. Et pour ma part, effectivement, je vous dis, je suis pour le renforcement des intercommunalités. Et le rôle un peu plus fort également des municipalités.
La suite du rendez-vous politique sur CFM avec Kader Youb et notre invité aujourd'hui Pierre-Antoine Lévy, premier adjoint à la mairie de Montauban en charge des finances, c'est dans quelques instants.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Vite, vite, faut y aller! C'est moins 20!
Mais c'est pas moins 20! Regarde la pendule!
Je te dis que c'est moins 20!
Non, mais t'es givré! Regarde sur ton téléphone!
Givré, moi? Ah non, plutôt chaud! Et très chaud, même! En ce moment, sur les poêles et cheminées Richard Ledroff, c'est moins 20% de réduction immédiate!
Vite, faut y aller!
C'est bien ce que je disais! Faut y aller!
Courez vite chez les Maîtres du Feu! 28 avenue Chamier, à 200 mètres de la gare à Montauban! 20% de remise sur toute la gamme Richard Ledroff! Rendez-vous sur lesmaîtresdufeu.fr! Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
Une révolution près de chez vous. Elle s'appelle PrestiVap, un concept écologique de nettoyage automobile complet à la vapeur. Votre voiture va être chouchoutée grâce à une prestation éco-responsable haut de gamme entièrement réalisée à la main, rapide, efficace et sans trace. PrestiVap, c'est un service à domicile sans frais de déplacement autour de Montauban, un choix de formule à partir de 25€ et une qualité irréprochable grâce à la puissance de la vapeur.
Renseignements et tarifs sur www.prestivap.com.
Du 26 mai au 1er juin, le festival Alors Chante revient pour sa 29e édition. Un rendez-vous incontournable de la chanson francophone. Plus de 60 artistes pendant 6 jours à Eurythmie Montauban. Avec Fauve, Renan Luce, Jacques Higelin, Gaëtan Roussel, Thomas Fersen et bien d'autres. Cette 29e édition du festival Alors Chante s'annonce pleine de surprises avec bien sûr Moments Zik et les découvertes. Du 26 mai au 1er juin, festival Alors Chante, site Eurythmie à Montauban. Info et réservations sur alorschante.com.
L'Office de tourisme de Lozère vous présente la 20e édition de Place aux fleurs les 20 et 21 avril. Dimanche 20, au cœur de la cité médiévale, marché aux fleurs et produits locaux. Expo, vente, balade botanique, découvrez les secrets des plantes et des fleurs. Une multitude d'activités vous attendent. Lundi 21, pour Pâques, chasse aux œufs, énigmes et jeux, tout un programme pour petits et grands. Place des Cornières à Lozère. Faites Place aux fleurs et passez un beau moment printanier. Accès gratuit aux animations. Restauration dans le village. Renseignements à l'Office de tourisme de Lozère.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Alors, suite du rendez-vous politique, notre invité Pierre-Antoine Lévy. Pierre-Antoine Lévy, Valérie Rabault était pressentie secrétaire d'État à l'économie. Il y a eu des pourparlers et elle l'a déclaré à la suite là, c'était aujourd'hui, je crois, dans la Dépêche du Midi. J'ai choisi de rester députée. Alors, je voulais vous demander ce que vous pensiez de cette phrase de Valérie Rabault.
Alors, je suis pas forcément sûr que, entre un poste de député et un poste de secrétaire d'État au budget, Valérie Rabault n'aurait pas préféré être secrétaire d'État. Ça s'est fait comme ça. Effectivement, son nom avait été pressenti toute la journée d'hier. Oui. Bon, finalement, c'est Christian Eckert qui a été nommé secrétaire d'État au budget. Ben, écoutez, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'effectivement, ce soit des paroles qui soient suivies d'intention. C'est que, pour l'instant, il faut que le député aille porter la bonne parole des administrés, également des politiques locaux, auprès du gouvernement. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, puisque les mesures qui sont prises et que Valérie Rabault a soutenues sur ce gouvernement en tant que vice-président de la Commission des Finances ne vont pas forcément dans le sens que nous aurions fait, nous, si nous avions été aux affaires. Donc maintenant, ben, j'en prends acte. J'espère que nos propositions seront relayées et surtout que la baisse des dotations aux collectivités dont il est fait état, là encore une fois par Manuel Valls, va peut-être être contrecarré par le rôle actif de cette députée.
Oui, ça c'est pas gagné. Hein.
Et je ne pense pas, puisque...
Pas du rôle actif, hein, mais en tout cas de la baisse des dotations, je ne pense pas que le Premier ministre y revienne. Hein.
Alors le Premier ministre a annoncé 10 milliards supplémentaires sur les 3 prochaines années. C'est déjà 3 milliards et demi qui ont été enlevés sur la ville de Montauban. C'est pratiquement, entre tout, c'est pratiquement 1,8 million, 1,8 million, c'est énorme. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut être beaucoup plus économe et beaucoup meilleur gestionnaire que nous ne le sommes. Et c'est déjà pas si mal, puisque si on peut parler rapidement derrière d'endettement et de maîtrise des frais généraux, on a plutôt été très bon. Mais il faudra encore faire mieux. Parce que, vous savez, c'est comme dans un budget d'un ménage. Vous avez un salaire et à la fin du mois, vous avez prévu votre budget et votre budget a été amputé de 10% ou 20% par le patron. Donc, c'est compliqué. Faudra faire avec.
Pierre-Antoine Levy, on revient sur les élections. Le 30 mars dernier, Montauban a choisi Brigitte Barège avec 51 élus, avec 51,33 pourcents des suffrages. Et quelles sont, selon vous, les raisons de ce choix de Montalbanais?
Écoutez, je vais déjà profiter pour remercier les Montalbanais, les 13 500 Montalbanais qui ont voté pour nous, et bien sûr dire que Brigitte Barège a été élue maire de Montauban et sera le maire de tous les Montalbanais. Et ça c'est un fait, bien évidemment, qu'elle a exprimé le soir de son installation. J'y vois là une grande marque de confiance. Ce score qui est magnifique finalement, puisque c'est le fruit d'une triangulaire. Personne, à mon avis, n'aurait pensé que nous aurions fait ce score-là il y a quelques mois face au Front National et face au Front de Gauche et le Parti Socialiste. C'est une marque de confiance que les Montalbanais nous ont témoigné. C'est une marque également de reconnaissance du travail qui a été accompli par Brigitte Barège et ses équipes de 2001 jusqu'à maintenant. Brigitte Barège, on peut le dire, a été un maire bâtisseur, a transformé Montauban. Et c'est visible. Je veux dire, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais quand on se promène dans Montauban, on voit que Montauban a changé. Et 51% des Montalbanais l'ont vu, ce qui est beaucoup. Et c'est surtout l'avance que nous avons eue sur notre challenger principal, qui, encore une fois, marque les esprits. Il y a quand même pratiquement 15 points d'écart sur une triangulaire, c'est énorme.
Vous êtes premier adjoint en charge des finances. Est-ce que c'était votre choix, vous?
Ah ben, c'est une vocation, les finances. Vous savez, je suis dans mon cœur de métier. J'ai toujours été intéressé par les chiffres, donc je m'intéressais déjà de près sur le précédent mandat, même si Martine Bordazel a accompli un excellent travail, ce que je salue aujourd'hui, durant deux mandats. Mais je crois que c'est tout à fait logique de faire bouger les délégations, et j'accueille avec plaisir cette marque de confiance que Brigitte Barège m'a témoignée. C'est un lourd travail, hein, de gérer les finances d'une ville et d'une agglo. Et écoutez, j'espère faire au mieux, en tout cas faire continuer à gérer de la même manière que les finances ont été gérées durant ces 13 ans.
Il y a eu ces rumeurs de campagne, peut-être, hein, vous me direz, qui faisaient état d'une compétition entre vous et Thierry Deville. Que c'était de l'intoxication médiatique ou c'était...
Alors cette campagne a été marquée par effectivement toute une agitation au travers de...
C'est peu de le dire, oui.
Une agitation, c'est une campagne qui était assez délétère quand même, hein, qui a été une campagne de calomnie. La presse ne nous a pas épargnés, nous a massacrés.
Il
n'y avait pas de compétition, non. Puisqu'aujourd'hui il y a la place pour tout le monde dans cette équipe. C'est une équipe de 45 personnes. Brigitte Barège était le capitaine de cette équipe. Et il y avait 44 colistiers qui étaient à son service, au service des Montalbanais, pour jouer cette compétition et gagner cette élection. Thierry Deville est adjoint à l'économie. Il y a du travail et nous allons travailler ensemble entre l'économie et les finances au sein de cette équipe. Il n'y a absolument aucun problème. Cette compétition a été initiée, lancée. Vous avez d'ailleurs vu que nous n'avons pas répondu, comme nous n'avons jamais répondu à aucune calomnie, autrement que par des projets, autrement que par des paroles d'apaisement. C'était pas notre ambition. Nous ne sommes jamais livrés à cet exercice. Et donc, encore une fois, nous avons laissé faire. Alors, ça a amusé la presse, ben nous avons laissé continuer.
Il y avait les deux caractères qui vous opposent. En tout cas, on dit de Thierry Deville qu'il est fougueux. Quand vous êtes très calme et très discret, est-ce que ça vous le revendiquez très facilement ou vous avez envie finalement de sortir
Je le montre pas forcément, je suis quelqu'un effectivement de très calme.
On va voir un nouveau Pierre-Antoine Levy peut-être dans cette mandature.
Oh, écoutez, vous savez, moi je pense qu'il faut pas surjouer ce que l'on n'est pas. Je suis quelqu'un de plutôt calme, ce qui m'empêche pas d'être assez stressé au quotidien. Ceux qui travaillent à mes côtés le savent, même si je le montre pas forcément. Moi, c'est mon tempérament. Thierry est quelqu'un qui a énormément de talent, du talent oratoire. C'est un avocat qui plaide de manière brillante et c'est son tempérament. Vous savez, je crois que nous avons été pendant la campagne associés tous les deux pour prendre la parole et finalement c'était un bon mix de deux prises de parole différentes mais qui étaient finalement assez complémentaires.
Et c'est vrai que dans cette campagne, on vous a vu presque, je vais dire entre guillemets, hein, Pierre-Antoine Lévy, vous épanouir, prendre beaucoup plus la parole qu'on avait l'habitude de vous entendre.
Oui, parce que effectivement, durant cette campagne, vous avez l'expérience qui vient, l'expérience qui prend un peu le dessus aussi. Et quand vous avez l'avantage d'être aux affaires, vous connaissez bien les dossiers. Donc quand on connaît bien les dossiers, on est peut-être un peu plus expansif. C'est vrai que j'ai pris quand même beaucoup de plaisir dans les meetings que nous avons menés. Cette campagne de calomnie que nous avons subie durant ces 6 mois a renforcé l'équipe. Je crois qu'on peut dire que nous avions une excellente ambiance, la volonté de bien travailler ensemble, la volonté de bien faire. J'ai pris du plaisir, même si nous avons pris beaucoup de coups. Alors je vous dis pas que je revivrai la même campagne, ça c'est sûr que non. Si elle pouvait être plus calme la prochaine fois, ça sera mieux. Mais cette campagne difficile a renforcé les liens qui nous unissaient en tout cas.
Votre majorité sera confortable à la communauté d'Agolo du Grand Montauban. Est-ce que la gouvernance a été discutée? Est-ce que vous avez avec Brigitte Barège, Thierry Deville, les autres maires de la communauté?
Alors nous allons rencontrer très prochainement les maires pour faire le point avant de pouvoir installer le conseil d'Agolo qui va ce coup-ci être rapidement installé puisque je vous rappelle qu'en 2008 il fallait désigner. Oui. Dans les conseils municipaux, les élus qui participaient au conseil communautaire. Là, c'est fait. Donc, nous avons le nom des élus qui vont participer. Il y aura 51 élus qui vont participer à ce conseil, dont 25 pour la ville de Montauban. Et donc, nous en avons discuté entre nous, mais nous allons maintenant poursuivre nos discussions avec les maires de l'agglo pour pouvoir installer d'ici.
Est-ce que vous pourriez nous annoncer une orientation? En tout cas, est-ce que, par exemple, vous pourriez confier la présidence du Grand Montauban au maire de Bressolles ou de...
Ah non, là, les choses sont claires. La présidence du Grand Montauban, Brigitte Barèche sera candidate pour être présidente du Grand Montauban. C'est tout à fait logique que le maire de la ville la plus importante de l'agglo se présente au suffrage. Et
oui,
Brigitte Barèche a déjà
une volonté d'ouverture. Annoncée. Vous en parliez en début d'émission pour d'autres villes qui pourraient intégrer la communauté d'agglo.
Alors, il faut savoir que dans notre communauté d'agglo, tous les maires de l'agglo sont vice-présidents, quelle que soit leur sensibilité. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les intercommunalités, en tout cas chez nous. Tous les maires de l'agglo sont vice-présidents.
Oui, ça c'est
et le président et le maire de Montauban.
Président, c'est comme l'armée mexicaine, sans pouvoir.
C'est prestige.
Non, parce que vous avez une instance qui s'appelle la conférence des vice-présidents. Toutes les décisions sont discutées dans cette instance avec les maires de l'agglo. Il y a vraiment une excellente ambiance. Enfin, très franchement, je crois que vous avez participé déjà à des conseils communautaires. Si les conseils municipaux du précédent mandat s'étaient déroulés de la même manière, on aurait été heureux. Nous avons une excellente ambiance. Il y a toutes les sensibilités politiques dans l'agglo. Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité, ce qui prouve vraiment qu'on peut travailler de manière intelligente quand les gens sont de bonne volonté, ce qui est le cas à l'agglo, ça a été le cas. Est-ce qu'il sera peut-être le cas au conseil municipal? Qui sait? Peut-être y mettre quelques vœux. Mais sur l'agglo, en tout cas, les maires sont tout à fait considérés, quelle que soit leur taille, de la ville qui fait 850 habitants.
D'accord.
À la ville qui fait 3500 habitants.
Il reste 4 minutes 30, Gadar Yob.
Oui, vous me tendez la perche, Pierre-Antoine Levy. Est-ce que depuis votre victoire, vous avez échangé avec Roland Garrigue, par exemple, ou Valérie Rabault?
Non, j'ai pas eu l'occasion d'échanger ni avec Roland Garrigue ni avec Valérie Rabault. Je ne sais pas si Roland Garrigue et Valérie Rabault ont félicité le maire de Montauban. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de les
Roland
avoir.
Garrigue a félicité.
Voilà, moi j'ai pas eu l'occasion d'être félicité. Écoutez, j'ai pas eu d'autre occasion, mais on aura l'occasion de se croiser, je pense, lors d'un conseil municipal avec Valérie Rabault. Ça sera pas le cas avec Roland Garrigue, puisque celui-ci a décidé de démissionner le soir même et ne siégera donc pas au conseil municipal. Ce que je trouve regrettable par rapport aux électeurs qui lui ont fait confiance. Il y a presque 10 000 électeurs qui ont voté pour lui. Et je crois quand même que 37% des Montalbanais auraient pu être représentés par le leader de la liste que nous avons battue.
C'est son choix.
C'est son choix.
La campagne qui s'est terminée a pointé avec insistance c'est les difficultés. C'est un euphémisme de compréhension entre la ville de Montauban et le conseil général et la région Midi-Pyrénées. Hein, vous étiez acteur de cette campagne. Est-ce que vous avez décidé de travailler différemment avec la région et le conseil général?
Alors, le fait de dire que nous ne voulons pas travailler.
Avant que vous répondiez, juste une précision. Roland Garrigue, ici à votre place, prétendait que depuis qu'il était, qu'il siégeait au conseil général, pas une demande de subvention n'avait atterri sur son bureau, si je puis dire.
C'est assez hallucinant d'entendre ça. J'ai fait partie, avec Brigitte Barège, de ce qu'une instance qu'on appelle le contrat de plan État-Région, où nous discutons des subventions qui sont demandées pour l'établissement de projet, par l'État, par l'Europe, par le Conseil Général, par le département, par le département et par la région. Nous avons fait de multiples demandes sur différents sujets pour avoir ces financements. C'est ce qu'on appelle ces fameux financements croisés. l'enveloppe qui avait été allouée de 2008 à 2014, c'était aux alentours de 10 millions d'euros sur l'agglo de Montauban.
10 millions d'euros.
10 millions d'euros qui était, c'est une déclaration là aussi d'intention, c'est-à-dire que la région nous dit, nous mettons 10 millions sur la table. Sur ces 10 millions, c'est moins de 2 millions d'euros qui ont été versés à l'agglo de Montauban. Tout simplement parce que chaque fois que nous demandions des subventions, et je peux vous dire que des subventions, nous en avons demandé beaucoup. On a demandé 5 millions pour la piscine. Nous attendons toujours la réponse. Le département nous a dit que c'était pas possible. La région nous a dit, on verra bien, mais on n'a pas de réponse complémentaire. 5 millions d'euros sur cette enveloppe de 10 millions. Nous n'avons pas eu de réponse et ils n'ont pas souhaité participer. Sur la médiathèque, la région est venue aux alentours d'un million trois. Le conseil général, qui devait donner 1,3 million, a donné 69 600 euros. Et au moment où je vous parle, la médiathèque a été inaugurée il y a un an. Nous n'avons toujours pas reçu ces 69 600 euros qui doivent représenter 0,50% de l'enveloppe globale. Nous avons travaillé avec la région et le département. Le problème, c'est que chaque fois que nous demandons une subvention, ben soit les papiers sont pas complets, soit nous ne rentrons pas dans le critère d'éligibilité, alors que d'autres régions, d'autres villes qui demanderaient la même chose auraient quelque chose. Sur le boulevard de contournement urbain, zéro du conseil général, zéro de la région, qui n'est pas une compétence.
Oui, justement, est-ce que vous avez décidé, est-ce que vous pourriez vous retrouver autour d'une table, discuter avec Martin Lavi, Jean-Michel Baillet, pour discuter finalement, qui sont les perdants de ces querelles? Ce sont les citoyens.
Mais ce sont les citoyens, mis à part que si nous avions attendu d'avoir des financements, mais je crois que Montauban n'aurait pas été transformé. Je crois qu'à un moment donné, quand vous êtes maire et que vous êtes un élu responsable, vous devez passer, vous devez avancer. Nous avons des demandes de financement qui sont en cours. Nous avons discuté avec Martin Malvy. Nous attendons quand même une réunion avec le président du conseil général. Alors, nous avions les précédents conseillers municipaux s'étaient proposés de faire l'intermédiaire pour obtenir cette réunion. Ça fait 6 ans qu'on l'attend. Je désespère pas qu'on arrive à se réunir. En attendant, la ville de Montauban n'a jamais refusé de travailler avec qui que ce soit. Elle est même volontaire pour travailler avec tous ceux qui veulent participer au projet.
Vous avez bien demandé des subventions, oui. Contrairement à ce que disait ici Roland Garrigue. Bon, dernière question, parce qu'il nous reste 30 secondes, donc très très rapidement. Est-ce que votre équipe, l'équipe de Brigitte Barège, va donner un coup de main à l'équipe plus novice de Jean-Michel Henriot de Moissac, qui vient d'être tout fraîchement élu?
Oui, alors on a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est un véritable vent. Un souffle nouveau qui s'est levé ces 23 et 30 mars avec effectivement la prise de quelques villes, et Moissac est un bel exemple. Nous avons bien sûr d'excellentes relations avec Jean-Michel Henriot, qui est, bien évidemment, nous l'aiderons s'il nous le demande. Il y a déjà des relations amicales entre Brigitte Barège et Jean-Michel Henriot, et donc il est bien évident que c'est une équipe qui est composée d'élus qui sont expérimentés, qui n'ont pas forcément été aux affaires, mais qui ont participé à des conseils et qui ont l'expérience de la vie publique. Donc nous allons travailler de manière intelligente avec Moissac. En tout cas, nous travaillerons avec toutes les communes qui nous en feront la demande.
On est vraiment au bout. On a déjà dépassé l'heure, Kader Youba. Moins que la réponse appelle un oui ou un non, oui, tu peux pas le poser.
Oui ou non, Pierre-Antoine Lévy, est-ce que Olivier Galerani aura une place dans l'équipe de Brigitte Barège?
Mais Olivier Galerani va travailler dans le conseil de prospective, dont il sera normalement le président, ce qui avait été annoncé pendant la campagne.
Merci, Pierre-Antoine Lévy, d'avoir accepté notre invitation. C'était le rendez-vous politique de CFM avec Kader Youb.
Merci.
Rediffusion demain midi et en podcast sur cfmradio.fr.
CFM. Info.